Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Elle est partie hier soir, elle commence à être relayée un peu partout dans la presse et sur les réseaux sociaux. La lettre d'Emmanuel Macron aux Français pour poser les termes du grand débat national prévu pour les deux prochains mois liste une bonne trentaine de questions sur quatre grands thèmes. Elle fait aussi la liste de ce qui ne sera pas en discussion. Et elle est signée d'un président largement impopulaire et qui, en pleine crise des gilets jaunes, reste très impopulaire. Le procédé, s'il n'est pas exactement nouveau, reste assez rare. Sera-t-il suffisant pour remonter la pente? La lettre aux Français d'Emmanuel Macron, rebond ou plongeon pour le président? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Arnaud Benedetti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé à Paris-Sorbonne Université, auteur de Le coup de com' permanent, c'est aux éditions du CERF en 2018. Et Frédéric Savicky, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pourquoi écrire une lettre à l'époque de l'instantanéité? Est-ce que c'est une volonté de marquer les esprits? Il y a un côté un petit peu solennel, Arnaud Benedetti?
La lettre, c'est une figure classique de la communication politique. Il y a la lettre aux administrés, la lettre aux électeurs, la lettre aux militants, et puis il y a la lettre aux Français. Il y a eu trois lettres aux Français de mémoire sous la Ve République, écrites par un président de la République, François Mitterrand, en 1988, mais c'était pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Il y a eu celle de Nicolas Sarkozy, également en 2012, qui était un préalable à sa candidature à l'élection présidentielle. Et là, on a une lettre, en effet, qui arrive dans un moment un peu particulier, qui est un moment de tension, de mobilisation sociale et politique. Alors, pourquoi la lettre? Parce que peut-être d'abord qu'Emmanuel Macron s'est beaucoup exprimé. Vous savez, il y a un vieil adage qui dit « les écrits restent, les paroles s'envolent ». Sauf que les psychanalystes vous disent en règle générale que les paroles demeurent. Et la lettre avait peut-être pour objet d'effacer un certain nombre de paroles qui ont été considérées parfois comme malheureuses, voire maltraitantes pour l'opinion publique. Alors la réalité du dicton correspond-elle quelque part à cette volonté d'Emmanuel Macron d'essayer de retrouver un ton apaisé dans sa relation avec les Français, après encore une fois un certain nombre de déclarations qui ont pu parfois donner le sentiment qu'elles hystérisaient le débat, peut-être. La vérité, c'est que aujourd'hui, Emmanuel Macron est dans un exercice qui est difficile, parce que il faut qu'il démontre à la fois sa sincérité personnelle et la crédibilité de l'exercice, la crédibilité de l'offre de débat, ce qui est un vrai sujet en soi.
Frédéric Savicky, cet aspect... Je vais m'exprimer par écrit pour éviter de déraper à l'oral. Vous en pensez quoi?
Oui, c'est sans doute un aspect indéniable, mais j'ajouterais deux choses. D'abord, c'est une lettre, mais c'est aussi une circulaire. On évoquait les lettres aux administrés, mais il y a aussi la circulaire qui est une figure classique du fonctionnement de l'État. Et là, évidemment, c'est aussi comme ça qu'il faut lire cette lettre qui s'adresse à la fois à ceux qui vont être chargés, on ne sait pas encore très bien qui, d'animer le débat, de l'organiser, certains élus, les préfets, etc. Donc voilà ce dont vous pouvez parler, voilà ce dont il ne faut pas parler, voilà ce qu'éventuellement vous pouvez ajouter au débat, voilà, c'est ça que ça veut dire, voilà les thèmes. Donc, et puis c'est une lettre circulaire qui arrive après, on l'a vu, une semaine quand même très mouvementée, concernant notamment justement l'organisation de ce débat et la fixation des limites de ce débat, entre d'un côté des ministres disant attention, il y a des choses dont il ne faudra surtout pas parler, et à l'autre extrême, la présidente de la Commission nationale du débat public disant si on fait un débat, il faut que a priori, il n'y ait pas de limite à tous les sujets qui pourront être abordés, et puis il faut qu'il y ait une neutralité ensuite dans la manière de conduire les débats, de restituer les débats. Et là, le président a sifflé la fin de l'épreuve de force et de la partie, en disant bon, c'est bon, voilà qui va organiser le débat, voilà quelles sont les questions que vous pourrez évoquer. Donc c'est aussi, je vais dire, la preuve que le président, finalement, est obligé de payer de sa personne pour mettre de l'ordre, et y compris en rentrant dans un luxe de détails dont on n'est pas a priori habitué.
Je rebondis un petit peu sur la forme, cette lettre, hein, qui n'en est pas une, hein, puisqu'elle n'arrive pas par la poste. Oh. Qui va-t-elle toucher? Est-ce que tout le monde la reçoit? Est-ce que, notamment ceux qui ne lisent pas le président sur les réseaux sociaux, qui ne veulent pas en entendre parler, est-ce qu'ils vont la lire, Arnaud Benedetti?
Il faut être clair, au début, cette lettre, elle vise à toucher essentiellement, en termes de communication, les leaders d'opinion. C'est un classique de la communication politique, c'est ce qu'on appelle la communication à deux étages. Vous savez, Paul Lazarsfeld, sociologue qui travaillait sur les motivations électorales dans les années 30, a démontré que, de toute façon, la communication passait essentiellement, en termes de communication politique, par ce qu'il appelait des leaders d'opinion, c'est-à-dire des influenceurs. Donc, d'abord, dans un premier temps, cette lettre, elle est, bien évidemment, et on l'a vu dès hier soir d'ailleurs, elle était commentée sur les chaînes info, elle était commentée sur les radios, elle était commentée par les journalistes politiques, donc il s'agissait de faire en sorte qu'elle infuse. Donc, ensuite, vont la lire ceux qui sont les plus impliqués dans la vie politique, ceux qui sont les plus politisés, c'est-à-dire quand même, malgré tout, une minorité de Françaises et de Français. Mais l'important, dans un premier temps, c'est que la lettre infuse. Et puis ensuite, le deuxième temps, ce qu'on voit sur la forme, il y a le contenu qui est important. Parce que le contenu, il nous dit plusieurs choses. Il nous dit d'abord que Emmanuel Macron rappelle les fondamentaux, et ça c'est très important, du macronisme. Il le dit. D'ailleurs, il dit « J'ai été élu sur un projet ». Alors ça, c'est une question qui peut se poser, mais en tout cas, il rappelle qu'il a été élu sur un projet. Certains pensent qu'il a été élu, non pas sur un projet, mais plutôt contre son adversaire du second tour. Mais ça, c'est un autre problème. Et puis surtout, en effet, je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire que il dissocie ce qui est négociable de ce qui n'est pas négociable. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est absolument non négociable, ou pratiquement peu négociable, où on négocie les modalités d'application, c'est finalement toute la partie qui touche à l'économique et au social. D'ailleurs, il y a un marqueur qui est très important, qui est laissé de côté, où il dit sur lequel il ne reviendra pas, c'est toutes les mesures d'attractivité. Il ne le cite pas, d'ailleurs. Mais on voit bien qu'il s'agit de l'ISF. Et puis, il y a quelque chose qui est plus négociable, parce que peut-être ça lui coûte moins symboliquement et politiquement, c'est l'institutionnel.
Si je vous dis, Frédéric Savicky, n'est pas négociable tout ce qui s'est passé depuis 18 mois, et est négociable tout ce qui s'est passé pendant les 40 années précédentes,
Oui, ou tout ce qu'on avait, et aussi n'est pas négociable tout ce qu'on a prévu d'une certaine façon de faire après. Par exemple, vous citiez ce qui n'était pas les éléments qui n'étaient pas mentionnés, la réforme des retraites, qui est quand même l'énorme chantier social. Alors là,
l'assurance chômage aussi.
Alors l'assurance chômage, c'est un peu évoqué, mais alors sur les retraites, excite quoi, comme si finalement c'était trop sérieux pour faire l'objet de débats. Que on estime que le travail aurait déjà été fait, ce dont on peut douter par la commission de Levoix. Donc ça, c'est aussi un point à souligner. Alors n'est pas négociable, évidemment, ce que vous dites, ce qui a été fait au cours de ces 18 mois, et de manière plus générale, j'allais dire, la philosophie générale du gouvernement, qui est la politique de l'offre, un libéralisme assez assumé, c'est-à-dire cette idée que aussi il faut baisser les impôts, mais pas les augmenter. Donc
c'est vraiment le point directif. Ouais. Quels impôts faut-il baisser? Il n'est pas question de les augmenter.
Imaginez, c'est une manière de considérer que ça va de soi, que tout le monde est d'accord, qu'il faut baisser les impôts, que les impôts, c'est pas bien. Donc ça c'est clairement, effectivement, une manière. Alors est-ce que derrière, les gens qui vont participer au débat vont se tenir à ce cadre? C'est une autre question. Enfin, cette lettre dit énormément, effectivement, de ce qu'est la vision du monde, l'idéologie du macronisme.
Alors chaque sondeur le sait, la façon de poser les questions induit un certain type de réponse. Est-ce que c'est une lettre qui invite à la réflexion ou qui relève plus du questionnaire à choix multiples, Arnaud Benedetti?
C'est une lettre quand même qui sur le fond reste assez incitative, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a certaines questions qui sont quasiment des questions fermées. Vous l'avez rappelé, je veux dire, on ne parle pas de l'augmentation éventuelle des impôts, donc le cadre fiscal, il est clairement posé. Mais si vous voulez, toute la difficulté de l'exercice pour Emmanuel Macron, il faut bien évidemment la replacer dans le contexte de la mobilisation des Gilets jaunes depuis 2 mois. C'est-à-dire que Emmanuel Macron doit quelque part montrer que il reste d'une certaine manière fidèle à ce qui a fait son projet et même son image, c'est-à-dire montrer quand même que il n'est pas un président, lui, qui renonce, qui se laisse impressionner par les assauts de l'opinion, comme ses prédécesseurs, en subliminal, c'est ce qu'il essaye de nous dire. Mais en même temps, comme chacun sait que quand même cette mobilisation l'a profondément bousculé et qu'il a été obligé de renoncer sur à l'augmentation de la taxe carbone, on voit que il est dans une position où il faut à la fois qu'il maintienne sa posture, qu'il maintienne son image, parce que c'est son fond de marque, et puis peut-être qu'il y a aussi des blessures narcissiques aussi, d'une certaine manière, ça existe aussi hein, chez les hommes politiques, et puis il y a la nécessité de montrer quand même qu'il est à l'écoute, qu'il entend, parce que le reproche qui est fait aujourd'hui à la communication d'Emmanuel Macron et à Emmanuel Macron en général et à sa politique en général, c'est d'être un président de la République qui n'écoute pas, qui est insuffisamment, disons, dans la posture de celui qui est capable de rentrer en négociation, en voie de négociation.
Et alors, en appeler directement au peuple, hein, puisque c'est le cas, c'est pour contrer les populistes, ou est-ce que c'est, par définition, du populisme, Frédéric Savicky ?
Par définition, je ne sais pas. C'est-à-dire que ça pourrait l'être, on va dire, si tout cela débouchait sur un référendum ou une série d'interpellations directes. C'est-à-dire que là, on verra. Hein. Après, c'est la conséquence, pourrait dire aussi directe, de la politique de refus, de discussion, de dialogue avec les élus locaux, avec les corps intermédiaires, les syndicats, les grandes associations. C'est-à-dire que si on en est là aujourd'hui, et si d'ailleurs beaucoup de ces corps intermédiaires refusent ou rechignent à participer au débat, c'est que Emmanuel Macron les a purement et simplement effectivement ignorés, snobés pendant un an et demi. Et donc, qu'est-ce qui restait finalement pour sortir de la crise à Emmanuel Macron comme interlocuteur ? Essayer de s'adresser au peuple, un peuple insaisissable, dont une partie refusera sans doute de participer à ça, dont une autre ne voit pas trop l'intérêt de faire ça. Bon, voilà, donc c'est le peuple, non pas comme le produit d'une stratégie calculée, j'en appelle au peuple, là, ça aurait signifié très concrètement dissolution. Hein. Mm-hmm. C'est plutôt, j'en appelle au peuple un peu imaginaire parce que j'ai pas le choix et j'ai pas d'autres, finalement, interlocuteurs. Alors, ça tient aussi, évidemment, à la manière dont s'est structuré le mouvement des Gilets jaunes, sans porte-parole attitré, sans leader, etc. Mais c'est une stratégie désespérée hein, qui lui est très largement imposée par la situation.
Est-ce que c'est une volonté de remobiliser des troupes quand d'autres, justement, semblent vouloir boycotter ce débat ? Est-ce que ça va être une façon, pendant 2 mois, d'occuper le terrain alors que les semaines précédentes Emmanuel Macron a subi plutôt Arnaud Benedetti.
C'est en tout cas pour lui la volonté d'essayer de reprendre l'initiative puisque il a perdu, il est clair depuis maintenant plusieurs semaines voire maintenant depuis quelques mois la maîtrise de l'agenda. Finalement Emmanuel Macron s'était construit en termes d'image depuis son accession à l'Élysée comme celui qui maîtrisait le calendrier, maîtrisait l'agenda, il était le maître des horloges, il y avait toute une mythologie macronienne, Jupiter, maître des horloges, verticalité, enfin tout un ensemble de concepts un peu marketing qui avaient contribué à la construction de son image et au fait que d'ailleurs un certain nombre d'éditorialistes adhèrent à cette image aussi, il faut être clair, je veux dire, c'était fait pour eux. Mais ce qui est très intéressant, et c'est vrai, il fait appel au peuple, mais si vous voulez, il y a un problème avec Emmanuel Macron dans sa relation à l'opinion publique et dans la construction de sa communication. C'est quelqu'un, quand il était candidat à l'élection présidentielle, qui a eu finalement une communication politique assez classique. Il sait appuyé essentiellement sur les intermédiaires, lui, en ce qui concerne. Et notamment, il avait une relation avec la presse, qui était une relation, si ce n'est excellente, mais en tout cas assez bienveillante, contrairement à ses concurrents, qui, eux, étaient pratiquement tous en opposition frontale avec la presse, en tout cas pour une grande partie d'entre eux. Quand il est arrivé à l'Élysée, il a mis à distance les intermédiaires, les corps intermédiaires, les maires, les élus, les députés, la presse également.
Et les journalistes
politiques, pas forcément les journalistes économique avec lesquels il a une plus grande proximité, et il a essayé de reconstruire un lien un peu plus direct avec l'opinion publique, avec les opinions publiques, avec le peuple, à travers une politique de communication qui voulait se passer des intermédiaires. Finalement, il est revenu aux intermédiaires ensuite, à un moment donné, notamment en matière de presse, parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire autrement, parce qu'il avait un entourage politique qui n'était pas suffisamment densifié. Le Nouveau Monde a peut-être beaucoup de qualités, mais le Vieux Monde avait un certain nombre de qualité, passé, c'est que il produisait, si vous voulez, des grognards et des barons qui étaient capables à un moment donné de servir de d'écran ou en tout cas de tenir un camp politique. Et là, il lui en manquait cruellement. Donc, il a toujours cette relation un peu ambiguë. Aujourd'hui, il est dans une relation directe, mais en même temps, on voit bien que dans sa lettre, il veut être dans une relation directe, mais il parle beaucoup des maires. Écoutez la façon, lisez ce qu'il dit sur les maires. Il essaye quand même de plus en plus de ramener ses élus de terrain, ses élus de proximité qu'il a un peu snobé dans son dispositif politique. Est-ce que ça sera suffisant? C'est une question.
Frédéric Savicky, est-ce que c'est une façon, vous voulez rebondir peut-être
là-dessus?
Est-ce que c'est une façon de renouer avec une méthode qui avait marqué la campagne? Il y avait eu des échanges comme ça avec les marcheurs pour essayer de constituer un programme qu'on avait attendu longtemps d'ailleurs. Et finalement, est-ce que c'est une façon justement de retremper son épée.
Je dirais que c'est un peu de la mythologie, c'est-à-dire qu'on va chercher dans cette image de la marche électorale, bon, qu'on reconstruit un peu de manière très rose après coup, pour dire que finalement on retrouve l'esprit initial. Bon, moi je suis pas sûr que l'esprit initial du macronisme ait été tant que ça, un mouvement parti d'en bas. Bon, c'est quand même d'abord une entreprise personnelle qui s'est appuyée certes sur des relais locaux, de gens qui sont engagés, qui ont cru en Emmanuel Macron. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ces gens, ils ont été très peu organisés, très peu sollicités pendant un an et demi, ces militants, ces macronistes, ces marcheurs, et que là, maintenant, on leur dit, bon, allez, on repart comme en 2016.
Question intéressante, est-ce qu'il en reste, les marcheurs, combien de divisions?
Ben, on le verra. C'est-à-dire qu'effectivement, une des clés possibles du succès du débat, c'est aussi la capacité qu'auront ces militants qui restent, ces croyants qui restent, de contribuer à animer des réunions publiques, à pousser et à inciter les gens à pouvoir s'exprimer, parce que les maires, sauf exception, n'ont pas envie de jouer ce rôle-là. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est pas l'administration qui va faire le travail. On sait de toute façon qu'elle est suffisamment nombreuse pour pouvoir faire face. Donc, c'est l'occasion, effectivement. Là, c'est un défi aussi, et c'est le à mon avis, c'est aussi le symptôme du fait que Emmanuel Macron finalement a négligé son parti, a négligé de structurer un parti, ses soutiens, et là maintenant il se retrouve effectivement nu, donc obligé de s'en remettre, comme vous disiez, aux maires, mais des maires qui, à mon avis, seront assez peu nombreux, sauf peut-être en milieu rural où là il y a des attentes de faire monter des revendications, à se plier à l'exercice et à contribuer à animer ce débat, quoi. Donc
les réactions sont assez classiques, hein. L'opposition s'oppose, la majorité soutient, il y en a qui veulent boycotter. Où est la nouveauté finalement là-dedans, Arnaud Benedetti?
Le problème qu'il faut se poser, c'est la seule question, je pense, qui aujourd'hui a un sens politique, c'est est-ce que l'outil qu'il propose aux Français, c'est-à-dire cet outil de débat national, est susceptible d'absorber la crise. Est-ce que c'est un outil qui est à la hauteur de la crise? Parce que quand même, fondamentalement, c'est pas seulement une crise sociale, c'est une crise de la représentation politique, c'est une crise des institutions. Le problème, c'est d'Emmanuel Macron, c'est qu'il arrive à la fin d'un cycle, dont il n'est pas forcément responsable. Hein. Les cycles politiques sont très longs en politique. C'est quand même la crise du modèle social, qu'on le veuille ou non, c'est la crise des institutions, et c'est la crise de l'Europe de Maastricht. Il a ces trois crises qui viennent à un moment donné, quelque part, engorger l'exercice de son mandat. Est-ce que la réponse qu'il apporte est à la hauteur des crises auxquelles il est confronté? On peut là aussi légitimement se poser la question. Je suis pas sûr que le débat national suffise à résoudre le problème.
Moi, je dirais que les choses peuvent être quand même assez ouvertes, c'est-à-dire que je pense pas qu'avec ce débat, Emmanuel Macron et son entourage pensent qu'ils vont rallier les gilets jaunes pour aller vite, ou en tout cas les plus mobilisés des gilets jaunes. Mais la stratégie, elle est pas là. La stratégie, elle est d'isoler les gilets jaunes, c'est-à-dire de s'adresser à cette masse de Français qui a plutôt de la sympathie pour les revendications des gilets jaunes, pas forcément d'accord sur les manières, les moyens d'exprimer ces revendications, qu'ils peuvent juger trop violentes. Ils peuvent juger aussi qu'il n'y a pas suffisamment d'esprit, on pourrait dire, de dialogue qui vient aussi des gilets jaunes malgré les 10 milliards. Et donc, je pense que la stratégie du débat, c'est, au fond, priver les gilets jaunes de soutien dans la population française. Et de ce point de vue-là, c'est très important, effectivement, que les Français, on pourrait dire, sceptiques vis-à-vis de la politique de Macron, pas forcément enthousiastes vis-à-vis du recours à la protestation permanente, permanente, s'emparent de ce débat. Et là, évidemment, s'il n'y a pas les relais, s'il n'y a pas non plus le sentiment chez beaucoup de gens que les propositions qui seront faites seront entendues, eh bien, ça risque de faire flop et ça se payera au moment des élections européennes, je pense, de façon assez cinglante pour le gouvernement.
On merci verra. Frédéric Savicky, merci à vous également Arnaud Benedetti d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Hélène Avril, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.